Vous écoutez, on lit pour vous.
Démystifier la maladie de Parkinson. Un texte de Véronique Bossé, paru le 1er avril 2025 dans Le Laurentien. Parkinson Québec lance une campagne de financement majeure dans le cadre du mois de sensibilisation à la maladie de Parkinson, dans le but de récolter 5 millions sur 5 ans pour la recherche sur cette maladie dont plus de 23 000 Québécois sont atteints. La directrice générale de Parkinson Québec, Caroline Champeau, rapporte qu'il est important de parler de cette maladie qui est la deuxième maladie neurologique dégénérative en importance derrière la maladie d'Alzheimer. On veut présenter la maladie de Parkinson comme étant une cause importante, parce que c'est la deuxième maladie neurologique à la plus forte croissance, et d'ici quelques années, on prévoit une augmentation de 40 % de cas. C'est pour ça qu'il faut en parler et qu'il faut la démystifier. Démystifier la maladie. Les chiffres disponibles concernant le Parkinson permettent notamment d'avoir une meilleure idée de qui est touché par la maladie. Selon le Système canadien de surveillance des maladies chroniques, 23 885 Québécois étaient atteints de la maladie en 2024. 44 % étant des femmes et 56 % étant des hommes. C'est quand même intéressant parce que souvent les gens sont portés à croire que le Parkinson est une maladie qui touche plus les hommes. Avec les statistiques, on voit que ce n'est pas vrai. Un autre truc à savoir est que les données du système canadien ne sont répertoriées qu'à partir de 40 ans. Donc, toutes les personnes atteintes qui ont moins de 40 ans n'apparaissent pas dans les statistiques. Et pourtant, on sait qu'il y en a. Il y a des gens qui reçoivent des diagnostics dans la vingtaine et dans la trentaine. C'est plus rare, mais il y en a. Quand on parle avec des neurologues, ils nous disent qu'il y en a plus qu'avant. La maladie de Parkinson, pas seulement des tremblements. Un autre élément qui peut être méconnu de la maladie est le fait que ce ne sont pas toutes les personnes atteintes qui ont des tremblements. La maladie de Parkinson, c'est une maladie qui se développe différemment d'une personne à l'autre. Ce ne sont pas uniquement des tremblements. Il y a des gens qui en ont, mais il y en a qui n'en ont pas. À partir du 10 avril, nous allons aussi sortir un ouvrage qui est une bande dessinée qui explique un peu les bases de la maladie. Dans cette bande dessinée, il y aura un jeu de cartes qui illustre des symptômes moteurs et non moteurs. On peut s'imaginer qu'être atteint de la maladie de Parkinson, c'est comme si on avait un jeu de cartes dans les mains et qu'on ne savait pas quelle carte on allait piger, explique Mme Champeau. Elle ajoute que les symptômes non moteurs de la maladie sont aussi importants que ses symptômes moteurs. Parmi les symptômes non moteurs, on retrouve, entre autres, l'anxiété, les troubles du sommeil et la perte de l'odorat. Les gens sont autant pris avec des symptômes moteurs que non moteurs. C'est une maladie qui est quand même complexe à vivre. C'est aussi le cas pour les proches aidants parce que c'est parfois difficile de comprendre ce qui se passe. Parmi les symptômes non moteurs, il y a aussi les hallucinations et elles ne sont pas toujours joyeuses. C'est assez présent comme symptôme. C'est sûr que ça crée des ondes de choc dans l'entourage. Le rôle de l'organisme provincial et de ses partenaires. C'est là qu'interviennent Parkinson Québec et ses partenaires régionaux qui ont notamment comme mandat d'aider au mieux-être de la communauté et de partager l'information fournie par l'organisme provincial. Ils utilisent nos grands programmes, nos grands services numériques et nos webinaires que nous faisons mensuellement qu'ils soient scientifiques ou psychosociaux. Ils diffusent aussi nos informations sur la recherche. Ce qui est différent de nous, c'est que nos partenaires sont responsables des services dans la région, dans la communauté. Contrairement à nous, ils reçoivent la communauté, que ce soit les personnes atteintes ou les proches aidants. Ils organisent aussi des services de proximité, donc des groupes de soutien, des groupes d'échange et des groupes d'activités physiques. Parkinson Québec offre une panoplie d'activités physiques en ligne, mais nos partenaires, eux, vont les offrir en présentiel. À cela s'ajoutent les activités sociales organisées pour briser l'isolement chez les personnes qui sont atteintes de la maladie. De plus, en utilisant l'information de Parkinson Québec, quand des personnes de leur région reçoivent un diagnostic, nos partenaires régionaux sont là pour les accueillir et les accompagner. Ils leur donnent une trousse d'informations, des dépliants, des vidéos à regarder et ils les mettent en contact avec d'autres personnes qui sont atteintes et ainsi de suite. Un objectif de 5 millions sur 5 ans pour la recherche. Comme mentionné précédemment, l'organisme tient présentement une campagne majeure pour atteindre un montant de 5 millions qui sera 100% assigné à la recherche sur la maladie. Pour l'instant, 50% de cette somme a été récoltée. Au Québec, nous sommes très choyés parce que nous avons des chercheurs de renommée mondiale. Comme on sait que souvent, la recherche ne connaît pas des avancées fulgurantes en raison d'un manque de financement, nous avons décidé de prendre les moyens nécessaires pour bien soutenir nos chercheurs québécois. Révèle Caroline Champeau. C'était « Démystifier la maladie de Parkinson », un texte de Véronique Bossé, paru le 1er avril 2025 dans Le Laurentien.
La solidarité humaine en péril. Un texte de Louis Bernard paru le 9 avril 2025 dans Le Devoir. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'humanité a connu une ère inédite de solidarité, aussi bien entre les pays qu'à l'intérieur même de ceux-ci. Avec la création de l'Organisation des Nations Unies et de ses organismes, dont l'Organisation mondiale de la santé, l'UNESCO et le Programme des Nations Unies pour le développement, la Déclaration des droits de l'homme et celle des droits des Autochtones, les objectifs du millénaire, la multiplication des traités internationaux, les nombreux programmes d'aide, les efforts concertés pour la préservation de l'environnement et combien d'autres initiatives, la communauté internationale s'est engagée dans une transformation majeure, passée d'une politique du « chacun pour soi » à une politique de solidarité. À la base de cette politique, il y a un principe fondamental. Les plus riches ont le devoir d'aider les plus pauvres. Il faut d'abord s'occuper des plus démunis. L'enrichissement individuel est légitime, mais il doit s'accompagner d'un désir de partage avec les plus pauvres. Cette orientation s'est concrétisée sur le plan international par les très nombreux programmes d'aide bilatérale ou multilatérale et, sur le plan interne, par l'impôt sur le revenu progressif et les filets de sécurité sociale. Contrairement à certaines craintes, cet effort collectif n'a pas ralenti la croissance économique. Bien au contraire. Nous avons connu, au cours des 70 dernières années, une période de prospérité sans précédent qui démontre qu'un monde solidaire, où la richesse est partagée, favorise l'enrichissement général et la stabilité. L'arrivée de Trump. Or, voici que le principal pays à la source de cet élan de solidarité, les États-Unis d'Amérique, vient de mettre brutalement les freins en saccageant l'aide généreuse apportée aux pays les plus pauvres, en mettant fin à sa participation et à ses engagements en matière d'environnement et de santé, en jetant le doute sur son soutien à l'Ukraine et en se désintéressant de tous les problèmes internationaux qui ne concernent pas directement son intérêt national. Même sur le plan interne, on voudrait favoriser les plus riches en diminuant la progressivité de l'impôt sur le revenu et en coupant en éducation et en santé. Les États-Unis, par leur activité économique, le développement des GAFA et des autres conglomérats d'affaires, sont à l'origine de la mondialisation actuelle des échanges qui, à leur tour, ont provoqué des périls, notamment en matière de santé et d'environnement, qui ne peuvent maintenant être affrontés que par une action concertée de tous les pays. Peut-on réellement s'imaginer que le pays qui est à la fois le plus riche et l'un des plus pollueurs veuille soudainement se retirer de l'effort collectif mis en place péniblement depuis quelques années et se refuser non seulement à payer sa part, mais également à soutenir l'effort des pays les plus pauvres, se contentant de profiter de l'action des autres? Cette attitude de retrait est surprenante, mais elle s'explique historiquement. Les États-Unis ont toujours été isolationnistes. Ce n'est qu'après de longues hésitations qu'ils ont finalement décidé d'entrer dans les deux grandes guerres, et le plan Marshall a été adopté de justesse par le Congrès américain. Auparavant, les États-Unis s'étaient toujours tenus à l'écart de la scène mondiale. Sa population s'y intéresse d'ailleurs assez peu et, à la suite d'expériences malheureuses au Vietnam, en Afghanistan et en Irak, y est plutôt défavorable. C'est pourquoi leur politique actuelle pourrait, hélas, être durable. Le retrait américain derrière des barrières tarifaires perturbera certainement le commerce mondial, mais il ne le détruira pas. Les autres puissances pourront s'organiser pour maintenir les échanges. C'est même ce qui est à prévoir, au moins à moyen terme. Espérons toutefois qu'il en sera de même en ce qui concerne la solidarité. S'il fallait que les pays donateurs imitent les États-Unis, ne serait-ce qu'en diminuant leur aide au tiers-monde ou en se retirant des organismes internationaux ou des programmes multilatéraux, ce serait un dur coup porté à la solidarité humaine. L'aide internationale. Le danger qui nous guette est donc double. Jusqu'à maintenant, l'attention a surtout porté sur les tarifs et le commerce international, mais il y a également un mouvement de droite plus insidieux qui s'attaque à la solidarité entre les individus et entre les nations. Et, à terme, ce deuxième danger est pire que le premier, car il affecte davantage les plus démunis et est plus difficile à corriger. La situation est d'ailleurs ironique puisque c'est le pays le plus généreux qui réduit abruptement son aide à presque rien. Comment réagira le reste du monde? Il est impératif que tous les pays s'engagent résolument à combattre ce retrait de générosité comme ils se sont engagés à faire la guerre aux nouveaux tarifs américains. Tout comme nous nous sommes mobilisés pour nous opposer aux nouveaux tarifs, nous devons nous mobiliser pour soutenir l'aide internationale. L'aide que le Québec et le Canada apportent aux pays en voie de développement ne doit aucunement être diminuée, mais doit au contraire être augmentée, dans la mesure où le retrait des États-Unis la rendra encore plus nécessaire. D'autant plus que l'aide accordée profite non seulement aux pays bénéficiaires, mais également aux pays donateurs, qui souvent fournissent les produits et les services impliqués dans l'aide. Il serait tragique que la solidarité internationale, qui commence à peine à se développer et qui reste insuffisante, subisse les contre-coups de la folie de Trump. C'était « La solidarité humaine en péril », un texte de Louis Bernard paru le 9 avril 2025 dans Le Devoir.
Le poids de la francophonie, un texte de Gwendoline Lebaumin, paru le 3 avril 2025 dans l'Aurore boréale. Les élections fédérales de 2025 ont été lancées le 23 mars dernier sur fond de guerre commerciale avec les États-Unis. Les candidats et candidates ont donc 36 jours au total pour faire campagne, le minimum prévu par la loi électorale du Canada. Parmi les électeurs et électrices, de nombreux et nombreuses francophones se rendront aux urnes. Notre vote est non négligeable. D'après une analyse des données d'Élections Canada, 38 circonscriptions à l'extérieur du Québec sont francophones, selon Francopresse. Elles se caractérisent par une importante population francophone et une demande significative de services en français. Le Média a également lancé le mois dernier un sondage pour mieux connaître les intentions de vote des francophones en situation minoritaire. On le dit souvent, la communauté francophone au Yukon est vibrante, particulièrement active. Le Yukon est la troisième région du pays où l'on trouve le plus de francophones. Plus de 14 % de la population yukonaise est bilingue, d'après les données du recensement de 2021. La proportion de francophones a augmenté, passant de 1 à 2,6 % entre 1986 et 2021. Le Yukon est d'ailleurs le seul endroit au Canada où le nombre de personnes immigrantes francophones augmente. La communauté francophone est également engagée. Mentionnons que 4 des candidats et candidates à la campagne fédérale du Yukon sont francophones ou peuvent s'exprimer en français. On a toutes et tous un rôle à jouer. Il est important de se mobiliser plus que jamais et de faire entendre notre voix et de tendre vers l'amélioration de l'accès de nos droits. Car à l'heure actuelle, les enjeux francophones ne semblent pas figurer en haut de la liste des priorités. En effet, le nouveau gouvernement formé par Mark Carney brille par l'absence du poste de ministre des langues officielles. Cette responsabilité semble avoir été confiée au Québécois Stephen Guilbeault. Celui-ci assume désormais les fonctions de ministre de la Culture et de l'Identité canadienne, de Parc Canada, ainsi que de lieutenant du Québec. Espérons que ce ministère réapparaîtra après les élections. La francophonie devrait être prise en considération par tous les partis politiques. À ce sujet, le journal a demandé aux 6 candidats et candidates du Yukon quelles seraient leurs priorités dans le cas où il ou elle serait élu. En 2023, un article dans le magazine de l'Aurore boréale soulignait la réputation engagée et revendicatrice de la Franco-Yukonie et ses défis, car bien que francophone, la personne qui se présente à une élection ne signifie pas forcément qu'elle le fait pour être porte-flambeau de la langue. Toutefois, le visage actuel de notre communauté est le résultat d'engagement et d'influence politique. Alors, pourquoi le vote des francophones en situation minoritaire est particulièrement important? En octobre dernier, la participation des électeurs et électrices de Whitehorse et d'autres communautés aux élections municipales du Yukon a été faible. Par exemple, le nouveau maire et le nouveau conseil municipal de Whitehorse a été élu par seulement 27 % des électeurs et électrices de la capitale. Ainsi, voter vise à protéger nos droits linguistiques. Élire un ou une représentante de parti politique qui défend et protège la langue française, ce serait à notre avantage, notamment dans les services publics, l'éducation, la culture et l'administration. On contribue aussi à garantir notre représentation au sein des institutions politiques. Une forte participation électorale renforcerait la voix de la communauté francophone et inciterait les gouvernements à répondre à nos préoccupations. Finalement, se mobiliser constitue un moyen de soutenir des initiatives et des politiques qui favorisent la préservation et le développement de la langue et de la culture francophone. Les élections permettent de choisir des dirigeants et dirigeantes qui reconnaissent l'importance de la diversité linguistique et culturelle. L'engagement citoyen au quotidien est important. Le gouvernement fournit des efforts que l'on aimerait parfois plus rapides. Mentionnons par exemple le lancement, en début d'année, de la nouvelle carte d'assurance santé, pouvant comporter dorénavant des signes diacritiques employés en français, ainsi que la mention FR, indiquant que la langue de soins préférée est le français. Le déploiement de cette nouvelle carte améliore l'accès aux services de santé en français dans le territoire. Bref, notre engagement et notre vote sont essentiels pour faire avancer la francophonie. Chaque voix compte et, ensemble, nous avons le pouvoir d'influencer les décisions politiques qui façonnent notre avenir. Pourcentage de la population ayant le français comme première langue officielle parlée, Terre-Neuve et Labrador, moins de 1%, Île-du-Prince-Édouard, 3%, Nouvelle-Écosse, 3%, Nouveau-Brunswick, 30%, Québec, 82%, Ontario, 3%, Manitoba, 3%, Saskatchewan, 3%, Alberta, 2%, Colombie-Britannique, 1%, Yukon, 5%, Territoire du Nord-Ouest, 3%, Nunavut, 2%. Source, Recensement de la population, 2021, Statistique Canada. C'était « Le poids de la francophonie », un texte de Gwendoline Lebaumin, paru le 3 avril 2025 dans l'Aurore boréale.
Réduire le temps d'hospitalisation par l'exercice. Un texte de Catherine Enfield, paru le 3 avril 2025 dans la presse. Alors que la kinésiologie est mise à mal dans le réseau de la santé, une étude met en lumière toute sa pertinence. Les personnes âgées qui ont suivi un petit programme d'exercice à l'hôpital ont reçu leur congé 6 jours plus tôt que les autres. Ils ont aussi eu moins recours aux soins à domicile à leur sortie de l'hôpital. 44% contre 66% étaient plus autonomes dans leur vie de tous les jours et ont fait moins de chutes, moins 19%. C'est ce que conclut l'étude, menée en partie pendant la pandémie et dont les résultats ont été publiés dans la revue « Medicine and Science in Sport and Exercise ». Les participants, âgés de 65 ans et plus, 38 dans le groupe contrôle, 62 dans le groupe exercice, étaient hospitalisés à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, IUGM, pour diverses raisons. Post-fracture, post-accident cérébral vasculaire, etc. Les gens du groupe exercice avaient le même profil à l'entrée que ceux du groupe contrôle. Ils rentraient dans les mêmes unités de soins pour le même traitement, explique la kinésiologue Mylène Aubertin-Lehoedre, professeure à l'Université du Québec à Montréal, UQAM, et chercheuse à l'IUGM. Et pourtant, on a une moyenne de 6 jours de moins de 6 jours, 38 au lieu de 44. 6 jours, c'est à peu près 9 000 $ par personne. Après l'évaluation habituelle de leur capacité physique, les patients se sont fait attribuer une couleur. De rouge pour les très fragiles à bleu pour les très en forme. Grâce à un arbre décisionnel développé par les chercheurs, les médecins obtenaient une ordonnance préétablie et la remettaient aux patients un peu comme on prescrit un médicament. Un kinésiologue rencontrait ensuite les participants de 30 à 60 minutes pour leur expliquer les exercices qu'ils devraient faire de façon autonome 3 fois par jour. Se lever de leur chaise, se tenir en équilibre en prenant appui sur le lit, marcher dans le corridor. Le personnel faisait ensuite des rappels amicaux. Malgré la simplicité, ça a ajouté des qualités vraiment extraordinaires en termes de données de santé, assure Mylène Aubertin-Lehoedre. Les patients du groupe exercice marchaient aussi plus rapidement à leur sortie, plus 30 % et avaient des jambes plus fortes, plus 15 % L'exercice permet de casser la sédentarité associée à l'hospitalisation et le cercle vicieux qui s'ensuit, explique la chercheuse qui ajoute « À l'hôpital, le temps alité réduit de 6 % à 16 % la masse et la forme musculaire en l'espace de 3 ou 4 jours. Les unités de soins ne sont-elles pas déjà desservies par des physiothérapeutes? Pas tous, indique Mylène Aubertin-Lehoudre. Et les physiothérapeutes ont d'abord comme mission de traiter des problèmes en particulier. Notre outil, nommé MATCH, est en ajout pour prévenir le déconditionnement physique, résume-t-elle. Dans leurs enquêtes, les chercheurs ont réalisé ceci. Des médecins vont éviter de proposer aux patients de bouger, soit parce qu'ils les trouvent trop fragiles, soit parce qu'ils les trouvent déjà en forme. L'arbre décisionnel permet donc d'uniformiser la prescription d'exercice et d'éviter cette forme d'âgisme. Compression. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a attribué une subvention à l'équipe de chercheurs en 2023 pour rendre l'outil accessible à toutes les unités de soins gériatriques, ce que l'équipe de Mylène Aubertin-Lehoudre s'affaire à réaliser. Comment vont-ils le mettre en place avec toutes les coupes qui sont en train de se faire? Je ne le sais pas, laisse-t-elle tomber. Selon l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, APTS, 15 postes permanents de kinésiologues ont été abolis, tout comme de 20 à 22 postes en surcroît, des postes ajoutés pour répondre à des besoins accrus. À l'APTS, on indique que ces compressions touchent un kinésiologue sur 20 parmi ses membres. La ministre responsable des aînés, Sonia Bélanger, dit accueillir favorablement les résultats de l'étude, tout en soulignant que certaines décisions, prises dans un contexte budgétaire serré, peuvent modifier le type d'approche et le professionnel intervenant auprès des aînés. Cela ne remet toutefois pas en question l'importance que j'accorde à la prévention du déconditionnement, indique-t-elle par écrit. Des travaux sont en cours afin de mieux soutenir, à terme, l'intégration durable de ces expertises dans les équipes interprofessionnelles. C'était « Réduire le temps d'hospitalisation par l'exercice », un texte de Catherine Enfield paru le 3 avril 2025 dans La Presse.